Salut la gang, bienvenue à ce 17e épisode de Femmes de fer. Connaissez-vous la recette du tofu magique? Si ce mot vous dit quelque chose, vous connaissez mon invitée Caroline Huard, alias Looney. C'est une incontournable dans le milieu du vegan et elle vient de lancer son livre Looney Cuisine, un livre 100% végétal. On jase ensemble de sa vision de la bouffe, d'Instagram, de son livre, mais surtout de son style de vie sans cruauté animale. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Monmini, rédactrice, productrice et mompreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Salut Caroline!
Allô Sophie!
Ça va bien?
Oui, ça va super bien, merci. Un petit peu en fin de rush, là, je dirais. J'ai enfin l'impression de pouvoir respirer, mais c'est juste des choses positives, donc je garde le sourire.
C'est incroyable ce qui se passe en ce moment pour toi, en tout cas de ce que je vois de
ouais,
l'extérieur. Pour te connaître un peu, Caroline, on s'est souvent côtoyé dans des événements.
Oui.
Tu connais bien mon copain Dino.
Oui.
T'es connu dans une ancienne vie, entre guillemets, on dirait. Puis j'ai l'impression qu'il se passe quelque
vrai,
chose
hein.
Tellement de nouveau dans ta vie en ce moment.
Ouais.
Caroline, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'ai failli t'appeler tout de suite Looney. Parce
ah,
que
ben
j'imagine
ouais,
que ça doit t'arriver souvent. On te connaît peut-être ouais. plus sous le nom de Looney aussi.
Ben, il y a à peu près juste ma famille ou mes amis de longue date qui m'appellent Caroline. Là. Sinon, les
oui.
amis que... ouais. puis je dirais que mon cercle social depuis quelques années est composé, ben, je dirais principalement, en fait, les gens que je vois le plus régulièrement, c'est des gens que j'ai rencontrés à travers les médias sociaux. Là. Tu sais, quand on dit que ça isole les médias sociaux, là, c'est, moi, je pense que c'est pas
c'est
tout à fait
pas
vrai. Là, tu sais, ça nous met en contact avec des gens qui partagent fondamentalement nos valeurs. Là, tu sais, donc, j'ai beaucoup de gens dans mon réseau social qui sont qui m'ont connue sous le nom de Looney, puis c'est comme ça qu'ils m'appellent aussi. Même tu sais à la télé, c'est comme ça qu'on m'appelle aussi. Donc je réponds aux deux, mais à la limite j'ai toujours trouvé que Caroline c'était pas super original. Là, on était six dans ma classe en première année. tu m'appelles tu peux m'appeler Looney, pas de problème.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, Caroline, c'est quoi ton parcours, ton histoire? Parce que on peut te connaître un peu d'Instagram. Mais
ouais.
avant tout ça, qui
ouais,
étais-tu?
Ben, beaucoup de gens pensent que je suis nutritionniste parce que je suis dans le domaine de l'alimentation en ce moment, mais c'est pas le cas. Puis je suis pas chef non plus, j'ai jamais fait d'école de cuisine, j'ai jamais travaillé dans un restaurant même. Mais en fait, moi j'ai été thérapeute, j'ai travaillé comme ergothérapeute pendant presque 16 ans, donc jusqu'au printemps 2019. Puis j'ai choisi ce métier-là en fait parce que ce qui m'intéressait le plus, bon, c'était les sciences, puis surtout tout ce qui avait attrait à l'humain, les comportements humains, la médecine, tout ça. Ce que je faisais comme ergothérapeute, c'était que j'accompagnais des gens qui vivaient des difficultés. Je les aidais à retrouver une vie plus normale. Puis le gros de ma clientèle, c'était surtout des gens qui traversaient des dépressions, beaucoup de professionnels en burn-out. Donc, mon rôle, c'était pas de remplacer le médecin ou le psychologue. Là, c'était vraiment un service qui était complémentaire. Mais mon rôle, c'était de les aider à traverser cette période-là de changement, à changer les habitudes de vie, de comprendre tous les processus de la motivation puis de les accompagner là-dedans. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, je travaillais aussi beaucoup avec des gens qui souffraient d'anxiété, beaucoup d'enfants aussi qui souffraient d'anxiété ou de difficultés d'attention. Puis, on développait des astuces ensemble pour qu'ils puissent mieux fonctionner malgré ça, pour qu'ils puissent mieux se comprendre. Donc, c'est vraiment le cœur. Moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est vraiment les comportements humains, ce qui nous motive, qu'est-ce qui fait qu'on fait les choses qu'on fait, pourquoi on fait telle activité, comment on la fait. C'est vraiment ce qui m'a toujours, vraiment ce que j'ai toujours adoré dans mon travail. Puis, il y a 8 ans, je suis devenue végane et j'ai commencé à cuisiner beaucoup parce qu'il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas vraiment d'options en supermarché là, comme on en a maintenant. Tu sais, le Beyond Meat, ça n'existait pas. Il y avait peut-être 2 sortes de tofu, il n'y avait pas grand-chose. Donc, si je voulais pas manger toujours la même chose, j'ai pas eu le choix d'apprendre à cuisiner pour me nourrir moi. Puis, j'avais envie de documenter tout ça. Fait que j'ai commencé à prendre des photos puis à partager ça sur Instagram en 2011. Et il n'y avait pas grand-chose qui se faisait à ce moment-là en français, là, côté bouffe vegan. Donc, ma communauté a commencé à grandir comme ça. Puis, éventuellement, je me suis mis à créer vraiment des recettes, tu sais, à partager mon parcours aussi là-dedans. Puis ma communauté a continué de grandir. Puis là, maintenant, c'est ce que je fais à temps plein. J'aime aussi beaucoup partager toute ma philosophie par rapport à ça. Puis c'est vraiment un message de bienveillance là, pour moi qui est au cœur de tout ça. C'est ce que je faisais comme thérapeute. C'est ça qui m'a amené à devenir végane. Puis c'est comme ça aussi que disons que j'exerce mon véganisme aussi, c'est à travers de la bienveillance, mais pas juste envers les animaux, mais envers moi-même, envers les gens qui mangent du steak, envers
qu'est-ce
tout.
Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur justement pour que tu deviennes végane? Tu dis que c'est un peu avec le travail que tu faisais. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, je suis allée en voyage dans le sud-ouest de la France chez des amis. J'ai mangé beaucoup de foie gras, beaucoup de rillettes, de charcuterie, des choses comme ça, mais plus que j'avais l'habitude d'en manger. Puis je m'entraînais à ce moment-là pour un demi-marathon et c'était vraiment pas mon premier. Puis quand je suis arrivée pour courir mon marathon, je venais de passer les deux, trois semaines là, dans le sud-ouest de la France, puis ça a vraiment pas bien été ma course. Je me sentais comme un peu, je sentais que mes organes ils fournissaient pas. Là. C'est dur à expliquer, mais je sentais comme que mon foie était un peu comme on sent après le temps des fêtes, je dirais. Là. puis par hasard, j'ai croisé un ami qui lui venait de courir son premier marathon comme végane et il m'a dit à quel point il sentait qu'il y avait plus d'énergie, qu'il sentait mieux, tout ça. Donc, je suis allée me chercher un livre sur le sujet. J'ai lu là-dessus. Puis, rapidement, ce que j'ai compris, c'est que c'était, oui, tu sais, ça pouvait avoir des bienfaits sur la santé, mais c'est surtout que ça m'a informée sur tous les dessous des industries. En fait, tu sais, le lait, les œufs, la viande, comment c'est produit. Tu sais, c'est pas des petites fermes comme on essaie de nous le faire croire, là. Mm-hmm. Donc, toute la réalité derrière les industries, je me suis éveillée à tout ça. Et là, c'est devenu clair pour moi que c'était pas juste une question pour mon bien-être, mais il y avait vraiment quelque chose de plus profond. Puis je pense que j'étais à un moment dans ma vie où j'avais vraiment besoin d'une mission, mais tu sais, en anglais, on dit d'un purpose, là. J'avais vraiment besoin de donner un sens à ce que je faisais. Je sentais que j'avais pas vraiment de défi. J'avais besoin, tu sais, c'est pour ça que je courais des demi-marathons aussi. J'essayais de me dépasser, mais au travail, j'avais l'impression de stagner un peu plus dans ma vie personnelle aussi. Donc, c'est vraiment arrivé comme un défi. Puis en même temps, étant donné que il a fallu que j'apprenne à cuisiner. Ça, je l'ai vu vraiment comme un défi créatif aussi. J'ai jamais été quelqu'un qui cuisinait beaucoup. Je viens pas d'une famille où la cuisine, j'aimerais ça raconter des anecdotes de, oh mon Dieu, on cuisinait tout le temps dans ma famille. C'était pas le cas, là. On mangeait du hamburger helper, puis des fois, on mangeait des plats maison. Mais, tu sais, c'était tout à fait dans la norme, là. Pour moi, je suis passée d'une omnivore qui mange du foie gras à une végane en l'espace d'une à deux semaines à peu près.
Wow! Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire ce changement-là?
Ben non, pas du tout, parce que j'étais vraiment, les raisons pour moi étaient vraiment claires, puis ça tombait à un moment où j'avais vraiment, vraiment la disponibilité, donc autant le temps, les ressources, la disponibilité mentale pour le faire, tu sais. J'avais juste moi à penser, j'avais pas à imposer ça à d'autres gens. Puis je me souviens, un dimanche, j'ai carrément vidé mon frigo, mon congélateur, j'ai donné du poulet, des poitrines de poulet surgelées, j'ai donné ça à des voisins. tu sais, j'ai vraiment comme, je me suis dit...
T'as décluttery, là. T'as fait ton Marie Kondo de la viande,
ouais,
là. C'est comme,
j'ai
bye-bye.
Donné... Ouais, puis c'était tellement clair pour moi que je revenais plus en arrière. J'ai donné mes livres de recettes aussi qui avaient de la viande, tu sais, qui avaient de la viande dedans, tout ça, parce que je savais que je ne reviendrais pas en arrière. Moi, c'était pas
parce que moi, je vois souvent les gens qui veulent faire cette transition-là. Une des choses qui est extrêmement difficile, c'est de laisser tomber, par exemple, les œufs ou le fromage ou la crème glacée ou, tu sais, des produits... Pas dérivé, c'est pas le bon mot, mais peut-être un peu plus gourmand, ou en tout cas, que c'est des fois c'est un peu complexe d'arriver à éliminer complètement ça, ou des fois ils vont se dire comme j'ai goût de fromage, fait qu'ils vont se laisser aller là-dedans.
Ouais,
puis ils en ressentent le besoin, dans le fond, mais toi, t'es capable d'enlever totalement ça.
Oui, bien la seule chose qui me manque, puis ça, j'en parle dans mon livre, j'en parle ouvertement, la seule chose qui me manque vraiment, c'est des œufs, notamment des œufs coulants, un œuf poché dans lequel on trempe une petite baguette de pain, des choses comme ça. C'est vraiment l'aliment qui me manque, puis tellement que dans les dernières années, c'est arrivé quelquefois que j'ai eu des envies vraiment, vraiment fortes. Là, j'en rêvais même la nuit. fait que ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis acheté. J'étais allée m'acheter, mettons, un 6 œufs fermiers, puis je me les ai préparés, puis j'ai mangé, puis l'envie était passée. Ou sinon, ça m'arrive peut-être 2-3 fois par année dans une situation où est-ce qu'il y a tu sais, je dirais au petit déjeuner, c'est encore très, très marginal, les options qui sont véganes. Il y a beaucoup d'options végé. Tu sais, souvent, on va avoir des assiettes qui n'auront pas de saucisses, des trucs comme ça. Les options véganes, c'est vraiment, vraiment rare. Même dans des grands hôtels, dans des restaurants qu'on dit qu'ils sont assez innovateurs pour le souper, pour le lunch, ça, ils vont préparer du tempeh, mais au petit déjeuner, c'est très, très classique, c'est des œufs partout. Donc, ça m'arrive peut-être 2 fois, 3 fois par année maximum de manger comme une omelette aux champignons. Ça ne veut pas dire que j'endosse l'industrie des œufs, vraiment pas, mais pour moi, ça fait partie du processus. Puis, tu sais, je l'explique des fois, je dis, je suis tout à fait une croyante, mais je ne suis pas pratiquante comme parfaitement. C'est correct comme ça, ça veut pas dire que je veux défier.
C'est beaucoup
ça veut
de pression.
En fait, il faut remettre dans le contexte n'importe qui veut faire une transition vers un mode de vie végane, il faut se rappeler qu'on ne vit pas dans un monde végane. Donc, par défaut, les options qui vont nous être présentées ne seront pas les options véganes. Il y en a de plus en plus, mais ça reste encore marginal. Ça reste qu'il faut s'adapter, il faut vraiment mettre des énergies là-dedans. C'est que pour moi, ça a toujours été important que ça se fasse relativement dans le plaisir, tu sais, pour que ça soit durable. Parce que je sais que si je me sens, par exemple, je sens que toutes mes amies vont bruncher à quelque part puis je peux pas y aller parce qu'il y a rien que je peux manger à part des toasts au beurre d'arachide, bien, si moi, je me sens exclue socialement de quelque chose à cause de mes convictions, ça ne sera pas durable.
En quelques mots, je ne sais pas si tu es capable de m'expliquer en quelques mots la différence entre être végé et végane, parce que ça peut être quand même complexe pour beaucoup de monde de comprendre les subtilités dans tous ces mots-là. Quand on est plongé dedans, nous, on en vit puis on le comprend à 100%.
Végétarien, c'est quelqu'un qui ne mange pas de chair animale, donc qui ne mange pas de viande. Donc, ça inclut les viandes rouges, ça inclut la volaille, ça inclut le poisson aussi, en principe. Quelqu'un qui serait pesco-végétarien, c'est un végé qui mange du poisson, donc il ne mange pas de chair animale, des animaux terrestres, mais il va manger du poisson. T'sais, souvent, les gens vont se dire « Ah, ben je suis végé, mais je mange du poisson. » Puis, bon, ils vont même pas utiliser le mot pesco-végétarien. Un végétalien, en fait, donc c'est quelqu'un qui se nourrit de végétaux. Quelqu'un qui a une alimentation végétale. Donc, un vegan a une alimentation végétalienne. Ça veut dire, ça veut dire que tous les ingrédients qu'on utilise pour cuisiner ou tout ce qu'on mange vient des végétaux. Par ricochet, c'est sûr qu'il n'y aura pas de produits qui sont des sous-produits d'origine animale. Donc, non seulement il n'y aura pas de chair, évidemment, mais il n'y aura pas de produits laitiers, il n'y aura pas d'œufs, il n'y aura pas non plus de miel. Parce que le miel, c'est pas d'origine végétale. Donc, ça a été fait par les animaux. Encore là, il y a un débat. C'est une zone un peu grise, je dirais. Donc, ça, c'est quelqu'un qui serait un végétalien. Le véganisme, c'est quelqu'un qui se dit vegan ou vegan en français. C'est vraiment un mode de vie. C'est un choix éthique qu'on fait. Okay. Donc, c'est vraiment une position morale qu'on va adopter quand on choisit, en fait, de vivre notre vie en évitant de créer de la souffrance aux animaux dans la mesure du possible. Puis c'est là qu'il y a matière, je dirais, à l'interprétation dans la mesure du possible. Un exemple franc, là, ça serait, disons, quelqu'un qui a une maladie grave puis la médication qu'il prend, c'est une médication qui est testée sur les animaux. Mais il n'y a pas d'autres options disponibles. T'sais, par exemple, la SLA. T'sais, la recherche sur la SLA, elle se fait avec des primates. T'sais. Un vegan pourrait quand même être un vegan, dire, ben non, moi, je ne veux pas causer de souffrance inutile, mais quand même avoir besoin de cette médication-là parce qu'il y a pas d'autres alternatives. Okay. Par contre, un vegan ne va pas acheter un shampoing qui a été testé sur des animaux parce que ça existe facilement des alternatives qui n'ont pas été testées.
C'est, quand on dit c'est vraiment un mode de vie. Là.
C'est un mode de vie. Fait que, quand on dit ce plat-là, il est vegan, en fait, ce qu'on devrait dire, c'est que c'est un plat qui est végétalien, donc il convient aux végans. Mais on va dire c'est vegan-friendly, on va dire c'est vegan. C'est pas faux de dire qu'un plat est vegan, mais en même temps, ça serait plus juste de dire que c'est un plat qui est végétalien, qui est adapté aux végans.
Aussi, je trouve ça intéressant que cette façon-là de penser s'installe tranquillement comme être éco-responsable, penser local. C'est tous des discours qui s'imprègnent tranquillement dans nos vies. Et je pense que, en tout cas, je l'espère, là, je suis peut-être très naïve et utopique, mais j'espère que ça va devenir plus un mode de vie majoritaire, finalement. Pas obligé d'être 100%, parce que tout le monde a le droit d'avoir son opinion, sa façon de vivre, mais de l'avoir inculqué naturellement, comme si c'était pas vraiment un questionnement, finalement.
Non, puis, tu sais, je pense que, puis pour moi, tu sais, je l'ai observé, moi, maintenant, je me considère un peu comme une vieille végane dans sens que j'ai quand même pas mal d'années derrière la cravate, puis c'est tout à fait normal. Tu sais, moi, au début de mon processus, j'étais beaucoup plus, j'aime pas dire arrogante, parce que c'est pas dans ma personnalité, mais j'avais tendance quand même à penser que je détenais une vérité, puis que les autres avaient pas compris. Puis ça peut être lourd, tu sais, pour les gens autour de nous. Tu sais, encore là, j'étais pas tant comme ça, parce que c'est pas dans ma personnalité, mais quand même, je le pensais. Tu sais, souvent, je me retenais là, à tous les jours de ne pas commenter sous des publications sur Facebook quand il y avait des recettes avec du bacon. Mais pis ça, c'est un processus normal parce que ça change tellement ta vie quand tu prends conscience de tout ça. Puis tu dis, mais tu sais, tu dois en fait traverser un processus de deuil où est-ce que tu dois faire le deuil de ce que tu croyais vrai jusqu'à maintenant. Ouais. Disons, j'ai toujours pensé que c'était correct, tu sais, qu'il n'y avait pas de problème de manger de la viande puis du fromage puis de porter, de m'acheter un manteau de cuir. Puis là, tu es éveillé à une réalité qui fait « Ah, non, dans le fond, tu sais, c'est peut-être pas aussi simple que je pensais. Il y a des conséquences à ça, donc tu dois faire le deuil de ça. Tu vas traverser toutes sortes d'étapes. » Mais tu sais, pour moi, ce qui est le dénominateur commun dans tout ça, que ce soit le mouvement zéro déchet, le mouvement vegan, c'est à la base, il faut que ça émerge d'une prise de conscience puis des... T'sais, d'une modification de nos croyances qui va vraiment être solide. Après ça, le comment on va l'appliquer, ça va vraiment être selon les limites de chacun, selon la réalité, le contexte de chacun. T'sais, c'est facile d'être végane quand tu habites à Montréal, mais t'sais, des fois en région, ça peut être un peu plus difficile.
Oui, oui. Mais je trouve ça intéressant aussi de se dire, c'est pas nécessairement non plus par la haine et la frustration qu'on va faire passer notre message, parce qu'on a beau avoir, comme toi, une nouvelle façon de voir les choses, puis tu as d'en parler, puis tu as le goût de le dire à tout le monde, puis de crier tout le monde, de dire voici ce qui se passe, tu sais, puis réveillez-vous, entre guillemets. Mais de l'autre côté, en étant agressif, puis en étant complètement frustré par rapport à tout ce qui se passe, bien, au lieu d'avoir l'effet escompté, ça fait que fermer les portes, puis tout le monde est comme bon, OK, calme tes nerfs, on peut-tu reste de ton côté, s'il te plaît. Fait que c'est qu'en étant comme tu es, toi, si je veux revenir, en fait, à au fait que tu passes ton message via Instagram avec des belles photos, avec des super recettes, avec ta façon de voir les choses et à l'expliquer comme tu le fais vraiment bien, ben c'est les gens font juste comme ah ok, ben puis ça nous éveille, puis on il y a des choses qu'on prend, des petites informations ici là, puis tranquillement pas vite ça vient juste nous de se résonner en nous, puis se dire comme ben coudonc, peut-être que moi aussi je devrais m'intéresser plus à ça, puis me renseigner là dessus puis fait que Parce que moi, j'y vois plus de cette façon-là que...
Mais moi aussi, tu sais, je me rends compte parce que, tu sais, quand on, ne serait-ce que quand on arrive à quelqu'un avec un message que c'est facile de faire quelque chose, tu sais, au même titre que moi, c'est un entraîneur me dit, voyons donc, c'est facile de trouver une heure dans ta journée pour t'entraîner.
Ouais.
Ben, moi, en fait, je me sens pas bien, je me sens honteuse, je me sens inadéquate, puis j'ai juste plus envie d'avoir cette conversation-là. J'aurais préféré passer à d'autres choses, faire comme si c'était pas là. Mais si l'autre personne me dit, je le sais que c'est vraiment difficile, tu sais, mais voici comment c'est possible, voici des pistes pour y arriver. Déjà, je me sens pas exclue, je me sens pas honteuse, je sens dans le fond que je peux connecter avec les autres, même si on vit pas de la même façon, qu'on a la même expérience, que oui, c'est difficile. Notre cerveau interprète à peu près de la même façon une opinion divergente puis une insulte, ça suscite à peu près la même réaction dans notre cerveau. Quelqu'un qui est pas d'accord avec nous, c'est à peu près l'équivalent que s'il nous insultait, donc on va répondre par souvent de la colère ou de la fermeture.
J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à consulter le site web de Femmes de Fer où je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel vous avez 5 astuces pour savoir comment bâtir votre liste de courriels. Alors, si vous voulez pousser le sujet encore plus loin pour vous aider à bâtir votre entreprise, allez sur sophiem.ca/femmes-de-fer-podcast. Toi, tu as amené un grand changement, je pense, avec ta recette de tofu magique.
Oui!
Faut qu'on en parle parce que, justement, je pense que tu es allé prendre quelque chose qui te frustrait peut-être et qui faisait partie de toi. Tu as créé une recette qui est devenue un incontournable. On parle de tofu magique, puis tout le monde est comme ouais. Puis moi, quand j'ai dit, c'est Looney, je sais pas c'est qui. Ça t'a dépassé. C'est devenu plus grand que toi.
Ouais.
Et je pense que ça fait aussi ton succès présentement. C'est la base de ton succès. Explique-moi un peu le tofu magique. C'est parti d'où? J'imagine que c'est dans ton questionnement là-dessus.
Ben en fait, c'est que j'étais vraiment pas une fan de tofu parce que j'ai toujours, à part, tu sais, comme quand je me donnais vraiment à fond puis je l'apprêtais, là, tu sais, disons, avec beaucoup de friture ou, tu sais, comme le fameux tofu Général Tao de Ricardo, tu sais, qui est quand même assez frit, ou, tu sais, au restaurant, tu sais, des fois, je me parais de moi-même, je me cuisinais des bons tofu, mais je trouvais toujours que c'était contraignant parce que ça nécessitait comme qu'il fallait le presser, il fallait le faire mariner pendant plusieurs heures. Il y avait des techniques de cuisson spéciales. Donc, tu sais, je trouvais que c'était comme lourd un peu. Fait que, tu sais, j'avais tendance à pas en acheter si souvent ça, pas en préparer si souvent. Puis je me disais, hey, ça serait tellement cool si j'avais une façon comme facile de préparer le tofu, puis que c'était bon à toutes les fois, puis que je pouvais l'adapter aux autres recettes comme je faisais avec du poulet avant. Quand je mangeais du poulet, c'était un peu mon aliment go-to, là, si je peux dire. Oui. J'avais des petits cubes de poulet, je faisais revenir ça, j'apprêtais ça à l'italienne, à la marocaine, à la japonaise. T'sais, c'était vraiment un aliment de base. Printemps 2018, j'étais allée souper chez une amie qui est une super bonne cuisinière qui est vraiment pas végé. Mais pour ses enfants, elle dit, ah, j'ai l'habitude de leur faire des tranches de tofu qui sont trempées dans le sauce soya et dans le levure alimentaire. Fait qu'elle me fait des tranches comme ça, je goûte à ça, puis je fais « Ah, ben mon Dieu, c'est donc bien une bonne idée, la levure sur le tofu. » C'était un aliment que j'utilisais vraiment beaucoup pour cuisiner. Puis le lendemain, j'étais arrivée chez moi, j'ai fait « OK, il y a vraiment de quoi à faire avec ça. Je pense que la levure, ça va vraiment, c'est ce qui va donner vraiment le goût à mon tofu. » Fait que je me suis lancée, j'avais tout ce qu'il fallait chez moi, puis je voulais quelque chose de vraiment, vraiment simple, facile à mémoriser. Ça m'a pris là, 2 essais, je pense, pour arriver aux bonnes quantités. Puis je voulais des petites bouchées justement qui allaient pas ressembler à du tofu, mais qui allaient comme ressembler un peu plus à des bouchées de poulet. Puis je l'ai partagé sur mon Instagram, puis ça a eu beaucoup de succès. Mais ça a été vraiment plus en début 2019 que ça s'est devenu viral. Là. Oui. Il y a plusieurs influenceurs qui l'ont cuisiné, qui l'ont partagé. Puis ça, je m'en faisais parler là, en janvier. Je recevais comme une cinquantaine de photos à chaque soir là, en DM là, de gens qui avaient cuisiné le tofu ou qui me taguaient sur Instagram dans leurs stories, puis je m'en faisais vraiment beaucoup parler, puis je me suis questionnée pourquoi les gens avaient tant trippé sur cette recette-là, puis à la réponse, en fait, je pense, c'est que ça nous demande pas de repenser complètement notre façon de cuisiner, c'est juste que ça demande pas beaucoup de préparation, tu sais, c'est pas un projet qu'il faut que tu prépares la veille, là, tu sais. Oui. Tu peux décider, tu reviens de travailler, puis si tu décides, tu veux du tofu magique à la seconde où tu arrives chez vous, puis la seconde où tu en manges en 15 minutes, puis
après c'est ça, extrêmement même, pratique. Non, excuse-moi, mais c'est extrêmement pratique pour les familles.
Oui, c'est ça.
Tu sais, quand tu veux intégrer ça dans une alimentation à tes enfants, que tu veux pas leur faire manger de la viande à tous les jours, ben, faut que tu trouves d'autres options. Pour moi, ça a été le tempeh. Moi, Massimo trippe totalement sur le tempeh.
Oh, wow!
Puis, ouais, ben, c'est moi, étrangement, la viande n'a pas vraiment été intégrée dans l'alimentation de Massimo. Ben, pas étrangement, en fait, ça a vraiment été, ça a fait partie de mes réflexions aussi de pas intégrer beaucoup la viande dans sa vie. Puis il en mange ici et là, mais sans plus. Puis le tempeh, parce que moi, j'en mange, je l'ai tout de suite intégré, puis ça a
c'est
été...
Ça
a été vraiment comme un succès, puis pour ça que je parle aussi de ton tofu magique, je pense que c'est quelque chose de facile à faire, à intégrer, puis quand t'es pressé, puis t'es en famille avec tes enfants qui ont... S'ils n'ont pas leur petit morceau de viande ou leurs petites affaires avec du ketchup, il n'y a rien qui marche. Fait que tu te dis, ben, écoute, je vais faire du tofu magique, ça va marcher. Puis si ça marche, puis que la maman est contente, c'est comme, oh, c'est clair que ça en devient un classique dans la famille. Fait
c'est drôle parce que je reçois une chose que je reçois souvent, c'est des petites vidéos de bébés qui mangent du tofu magique. Là, puis ça me fait je trouve ça tellement adorable, puis ça me fait chaud au cœur en même temps de voir que. T'sais, je me dis, moi, quand j'étais jeune, on mangeait pas du tofu. Là. C'était juste les familles grano là, qui mangeaient du tofu dans les années 80. Là. Mais je trouve ça vraiment cool. Puis t'sais, les bébés, ils se régalent. Là. C'est tellement drôle. T'sais.
Mais moi, c'est ce que j'aime beaucoup de ton livre 100% végétal, que il y a une recette que j'ai faite dernièrement avec Dino. Puis t'sais, j'ai pris ta recette. Puis je pense que tu donnais comme plusieurs options aussi.
Ouais.
Ah, vous pouvez la faire en taco parce que c'est un bol à la base. Puis t'as tout de suite mis différentes options aussi. Puis j'ai fait comme, ah tiens, à ce soir, ça me tente pas de manger nécessairement une salade, un bol. Ah, mais ça serait le fun dans un taco. Puis là, Deno, il était comme lui. Deno, il aime sa protéine fois 1000. Fait que là, il était comme, ah, mais on pourrait peut-être rajouter du Beyond Meat. Puis c'est ça qu'on a fait. Fait que tu sais, on a pris
cool,
tes recettes.
Ben,
puis on l'a vraiment comme amené à la protéine à Deno. Et l'autre côté, moi, mon désir d'avoir du taco, tu sais, une petite soirée vendredi soir, le fun. Fait que moi, c'est ce que j'aime beaucoup. En fait, je veux parler de ton livre, c'est que ton livre nous amène ces bases-là qui peuvent paraître des fois comme je disais au départ, insurmontable quand on veut s'intéresser à ce style de vie-là. Mais quand on regarde ton livre, tu nous proposes beaucoup de bases, de recettes, mais aussi différentes façons de l'adapter dans notre vie. Tu nous parles aussi de tes trucs, comment toi tu l'intègres, ta façon aussi d'avoir les aliments les plus de base pour être capable de faire toutes ces recettes-là. Fait que d'où t'es venue l'idée de faire ce livre-là? Est-ce que c'est en quittant ta job que tu as eu ce besoin-là, non?
Non, en fait, ça faisait le livre était en préparation dans ma tête depuis plusieurs années, mais j'avais jamais trouvé l'angle, avec lequel je voulais approcher ça, parce que je disais, j'étais un peu tiraillée entre mes deux passions qui étaient plus comme l'humain, les comportements humains, ce que je faisais au travail comme ergo, puis tout ce qui était à la cuisine, puis je me sentais, j'allais pas de l'avant avec un projet parce que je me sentais un peu imposteur dans tout ça, tu sais. Je me sentais pas, je me suis dit, je suis pas une chef, je suis pas une nutritionniste, je suis même pas photographe de bouffe, je suis pas psychologue, tu sais. Fait qu'il y avait plein de chapeaux que je voyais que je portais pas, puis je me dis, ben voyons donc, est où ma place? Puis c'est devenu clair en 2018, on m'a approché pour donner une conférence ça devait être une démo culinaire, mais ça devait être sur un thème lié à la santé. Donc c'était certain que je pouvais pas parler de nutrition parce que je suis pas outillée pour le faire, je suis pas nutritionniste. Puis je me suis, tu sais, j'ai parlé en fait, j'ai fait une petite démo en lien avec l'importance de la cuisine dans nos vies pour gérer le stress, en quoi la cuisine va nous aider à vivre plus de satisfaction, à être moins stressé, tu sais. Donc, puis mon approche pour mieux fonctionner en cuisine quand on vit avec du stress, avec de la fatigue, tout ça. C'est sûr, j'ai trouvé mon angle et c'est là, sans même que j'ai juste lancé ça dans l'univers. Puis ça a découlé, je me suis fait approcher par plusieurs éditeurs pour faire un livre. Donc, le processus a été enclenché vraiment plus à l'automne dernier, en 2018. C'est là que j'ai commencé à travailler intensément sur le livre, mais je travaille encore à temps plein. Donc, je l'ai fait pendant 6 mois, là, faire les deux, là. Ça a été vraiment, vraiment épuisant. Puis quand j'ai quitté mon emploi, le livre était presque terminé, mais il restait comme juste les photos à faire et tout. Mais mon message, en fait, c'était, j'avais beaucoup observé dans ma propre vie en tant que fille occupée, ce qui marchait en cuisine, ce qui marchait pas. Je voyais beaucoup, beaucoup chez mes clients aussi, mes clientes surtout, parce que c'était surtout des femmes que je voyais, à quel point, dès qu'elles se mettaient à aller pas bien dans leur vie, dès que les premiers symptômes d'épuisement ou de dépression s'étaient installés, la cuisine, c'était souvent un baromètre de ça. Souvent, on avait arrêté de cuisiner, on n'avait plus d'appétit, on n'avait plus le temps, on se faisait venir de la bouffe, tu sais, où on mangeait pas, on mangeait des toasts pour souper, des trucs comme ça. Donc, je le voyais, le lien entre la cuisine, comme étant un baromètre de notre santé globale, incluant la santé mentale. Pour moi, ça a toujours été clair. Puis, je me suis dit aussi, en tant que personne qui n'avait pas de base en cuisine, j'ai réussi à trouver des trucs, moi, pour cuisiner, puis pour que ça soit le fun, puis jamais ennuyant. Donc, je me suis dit, je veux faire un livre qui va accompagner les gens vers ça. Donc, le premier... Tu sais, oui, mon livre, c'est un livre de cuisine qui est adapté aux véganes, donc c'est de la cuisine végétale. Donc, c'est excellent pour n'importe qui est végane ou qui veut cuisiner davantage de plats végétaux. Mais j'avais aussi un autre message, c'était derrière tout ça, c'était vraiment, je veux que les gens cuisinent plus parce que qu'est-ce qui arrive si je passe pas de temps dans ma cuisine? C'est que je confie cette tâche-là en sous-traitance à des industries. Si j'achète des plats toutes faites, ben il y a des bonnes chances que ça soit une industrie qui l'ait préparé à ma place. Puis les industries sont pas nécessairement bienveillantes. Ils sont là pour faire de l'argent. T'sais.
Et il y a des bonnes chances aussi. C'est intéressant ce que tu dis comme réflexion parce que moi, avec Dino, on a énormément cette réflexion-là, évidemment, dans nos vies. Puis même moi, dans ma famille, on va sans rentrer dans les détails, mais mon père est médecin et extrêmement a accompagné pendant plusieurs années des gens justement aux prises avec des problèmes au niveau de leur santé, au niveau de la nourriture. Ça a toujours fait partie, moi, de mes réflexions de se dire, dès qu'on s'en va au restaurant, puis moi, je suis une foodie, j'adore aller dans les restos, mais dès qu'on s'en va dans des restaurants ou qu'on achète quelque chose de déjà préparé ou de préfabriqué, peu importe ce qu'on va acheter, on ne sait jamais l'ingrédient qu'il y a dedans. Pendant un certain moment, moi aussi, j'ai eu dans ma vie une vie complètement hors de contrôle où C'est rendu le take-out à tous les soirs, puis des choses que ça faisait partie de notre mode de vie parce qu'on n'était plus capable, on n'avait plus de temps, fait que c'était notre façon de s'en sortir. Puis j'avoue que moi, j'en ai comme perdu le fil, j'en ai perdu aussi le contrôle sur ma santé, ça m'impactait énormément. J'étais tout le temps malade, je savais pas pourquoi. Mm. Puis à un moment donné, on s'est retourné, moi, puis des noms, puis on a fait comme, tu sais quoi, on va commencer à se refaire nos plats le midi, nos salades ou nos bonnes bouffes. Puis maintenant, là, on est presque plus capable d'aller au resto parce que toutes les bouffes qu'on se fait, c'est bien meilleur.
C'est meilleur, oui.
Puis c'est meilleur parce qu'on se le fait ensemble aussi, on s'amuse. Oui, et moi, dans ma famille, ça fait partie de ça. Ouais. Avec mes soeurs, juste en fin de semaine, je m'en vais chez ma mère, on va se faire les tourtières pour Noël. C'est de retrouver ce bonheur-là. Puis je sais que ça prend du temps. Puis il y a tellement de monde qui nous disent, mais j'ai pas le temps. J'ai même pas 5 minutes pour moi le soir. Puis ça, je comprends ça.
Ben oui.
Fois mille. Mais juste des fois, de retrouver ce petit bonheur-là, ou c'est juste de se dire, hey, j'ai mis ça dans ma salade, puis c'est pour ça que c'est bon. J'ai mis ça dans mon poulet parce que tel ingrédient, c'était donc comme ça me rappelle telle affaire. Tu sais, c'est des détails comme ça qu'on oublie. Mais quand on se retombe dedans, en tout cas, ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce que moi, ça fait partie de mes réflexions continues.
Puis c'est sûr qu'il y a des périodes de la vie, tu sais, quand tu as un jeune enfant, par exemple, puis en plus, disons, une mère là, qui est en retour au travail à temps plein, puis elle a un enfant qui vient de rentrer à la garderie qui est tout le temps malade, c'est sûr qu'il y a des périodes de notre vie où est-ce que la cuisine, on va avoir moins de temps puis d'énergie à consacrer, puis c'est correct.
Je ne sais pas de qui tu parles, là, présentement.
Je sais pas.
Ouais. Je veux qu'on prenne du temps pour parler de l'impact de ton livre et pourquoi tu as, avec le succès de ton livre, est-ce que c'est ça qui a fait que tu as dit « je quitte ma job » ou c'était déjà enclenché
non,
dans ta tête?
Non, en fait, je dirais que j'ai fait le choix de quitter ma profession parce que j'avais envie de me lancer un peu dans le vide puis de m'ouvrir à d'autres opportunités. J'avais besoin de changement. J'avais aussi l'impression d'avoir donné ce que j'avais à donner dans un contexte comme ça, tu sais, en un à un, en thérapie avec des gens. J'ai accompagné beaucoup de gens. C'est dur émotivement d'accompagner à tous les jours des gens qui sont déprimés. Puis je suis contente de l'avoir fait, puis j'ai aucun regret, mais je voulais pas me rendre à un point où est-ce que j'étais plus capable. Donc, tu sais, j'aimais encore ça. Pour moi, c'était le temps là, de passer à autre chose. Mais quand j'ai fait le saut, je savais que mon livre allait sortir à l'automne, mais tu sais, même un livre qui est un succès, tu fais pas beaucoup d'argent avec ça. Tu sais, c'est pas très payant d'écrire un livre, c'est plus que ça t'ouvre d'autres portes. La seule chose que j'avais, sinon, comme source de revenus, c'est que j'ai de la création de contenu, j'ai des clients réguliers qui me commandent des recettes, mais tu sais, c'était rien pour à côté le salaire de professionnel que j'avais avant, tu sais. Donc, je me lançais vraiment dans le vide, puis je me suis dit, regarde, si je le fais pas, je le saurai jamais. Puis les gens autour de moi me disaient, mais continue à reste membre de ton autre professionnel, continue à cotiser comme ça. Si jamais ça marche pas, tu vas pouvoir retourner. Mais pour moi, c'était essentiel de faire la coupure. Donc, je me suis vraiment désaffiliée de la profession. Je voulais pas me donner ce filet-là parce que je voulais me donner la chance pleinement de m'ouvrir à d'autres choses. Mais on m'approchait après pour faire de la radio à toutes les semaines à Radio-Canada, donc pour avoir une chronique à l'émission, bien entendu, avec Stéphane Bureau. Donc, je fais ça tout l'été. Puis, on m'approchait aussi pour le show de télé à Télé-Québec pour Moi, je mange, qui était comme un projet inespéré. Là, tu sais, je n'ai pas lâché ma job en disant « je veux faire de la télé ». Mais ça s'est produit parce que je pense que j'étais rendue disponible à ça. En ce moment, je manque vraiment pas de travail, même que je dois en refuser beaucoup, beaucoup parce que je peux pas tout faire. Je pense que je me sens comme récompensée pour le courage que j'ai eu parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui prend des risques comme ça dans la vie. Je pense que c'était le plus gros acte de foi que j'ai fait dans ma vie. puis j'ai vraiment l'impression d'avoir pris la bonne décision. Fait que je suis comme super reconnaissante. Là, je trippe en ce moment, même si je suis fatiguée. Mais là, maintenant, je m'en rends compte à quel point, écoute, il y a tellement de travail, puis c'est tellement un petit marché, le Québec, tu sais, que même si t'es un best-seller, tu payes vraiment pas ton épicerie avec ça, là, tu sais. Donc,
mais là, le temps des fêtes arrive, allez acheter le livre.
Oui, c'est ça qu'on veut dire.
C'est un excellent cadeau pour les foodies, pour les gens qui ont le goût d'en apprendre plus sur ce sujet-là. Puis, il faut quand même que je te dise que t'es allé faire à manger avec Ricardo. Fait que t'as pas de sentiment d'imposteur à avoir, là. T'as fait de la bouffe avec Ricardo.
Non, mais je travaille vraiment mon sentiment d'imposteur. Puis, tu sais, l'année passée, en 2018, j'avais fait l'émission Je suis chef à pavé. C'était oui. comme une compétition entre chef et non-chef. Il fallait comme, tu sais, les juges ne savaient pas qui était chef, qui l'était pas. Puis j'avais gagné avec un de mes plats qui est dans le livre, justement. Puis là, ça m'a vraiment donné confiance parce que je me suis dit, OK, si je suis capable de cuisiner sous pression puis d'être jugée par des chefs puis qui trouvent que ce que j'ai fait, c'est bon. En même temps, je trouve ça correct que quelqu'un qui n'est pas chef, tu sais, montre aux gens à cuisiner parce que je pense que si on fait erreur de penser que c'est une activité qui est réservée à l'élite puis qu'il faut absolument être super bon. Tu sais, la cuisine, ça devrait être accessible à tous. Puis en tant que personne qui n'est pas chef, justement, j'ai peut-être une approche de la cuisine qui va rejoindre certaines personnes aussi que l'approche des chefs rejoindrait moins aussi.
Mais tu sais que Ricardo n'était pas chef, hein?
Non, Ricardo, je sais, c'est ça.
Ricardo était un chroniqueur de bouffe qui aimait tout simplement jaser de bouffe. Puis c'était un communicateur. Puis maintenant, en tout cas, pour moi, c'est rendu un incontournable pour bien du monde.
Ben oui.
Fait en tout cas, je sais, on sait jamais. En fait, c'est la passion, je pense, puis c'est l'intérêt, puis c'est quand on est bon à développer et à jaser de ce qu'on qu'on aime, c'est là que les gens embarquent. Moi, je veux savoir, Caroline, qu'est-ce que tu veux développer prochainement, là, parce que je sais que bon, ton livre est lancé, puis tu t'en parles, puis c'est un gros morceau. Des fois aussi, il faut savourer cette victoire-là.
Oui, ben mais oui, vraiment.
Est-ce qu'il y a d'autres choses en branle? Qu'est-ce que tu veux développer prochainement?
Je me rends compte qu'avant tout, je suis vraiment une communicatrice. J'aime vraiment ça, expliquer des choses, comment moi je les ai comprises, les expliquer pour que les gens les comprennent aussi, vulgariser, parler de mon expérience. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis quand j'étais ergo, j'ai donné beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de formations sur différents sujets, beaucoup en lien avec la santé physique, la santé mentale. Puis là, avec la cuisine aussi, j'ai commencé à faire des démos culinaires, des conférences aussi. Mais là, en ce moment, je travaille sur des conférences qui vont un peu mêler tout ça. Donc, je veux vraiment continuer à partager, oui, des recettes, mais il y a aussi beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur. Puis, ça va toujours tourner beaucoup autour de l'alimentation, mais je trouve que l'alimentation, la prise des repas, les choisir ce qu'on mange, c'est souvent un reflet beaucoup de comment on va comme société, comment on va comme personne. Donc, pour moi, ça va toujours être un peu un médium pour aborder d'autres sujets aussi. Puis, tu sais, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur en ce moment, c'est de que la nourriture, ça soit pas quelque chose qui nous divise, mais plutôt quelque chose qui nous rassemble. Mm-hmm. Tu sais, les étiquettes autour de la bouffe, moi je suis végane, moi je suis keto, moi je suis zéro déchet, moi je suis tout ça. Autant c'est nécessaire parce que ça nous crée des communautés de soutien, autant ça crée beaucoup de divisions. Puis ça, moi, c'est pas quelque chose que je veux alimenter. Donc, c'est beaucoup là-dedans aussi que je veux mettre mon focus. Tu sais, oui, développer des recettes, mais tous les aspects humains liés à l'alimentation aussi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup.
Donc, là, ça nous prendrait un show de télé où tout le monde se rassemblerait autour d'une table et jaser de ces choses-là.
Exactement.
En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer?
Ça évoque quelque chose de très solide. Puis, tu sais, pour moi, la solidité ou la force, ça vient vraiment de la capacité à être vulnérable, tu sais, de la capacité à prendre des risques, à s'exposer. Mais à chaque fois qu'on prend des risques, on s'expose, à se faire mal, là, tu sais. Mais on s'expose aussi à connecter avec des gens qui ont peut-être envie de prendre le même risque puis qui n'osent pas, ou des gens qui l'ont pris, qui ont eu mal puis qui ont envie d'en parler, ou des gens qui ont fait le, tu sais, qui ont aussi pris le risque puis que ça a bien été aussi. Je pense que pour moi, c'est vraiment ça. C'est je le vois comme un peu comme une armure, mais en dessous de ça, il y a quelque chose de vraiment très, très vulnérable, puis il faut savoir la retirer de temps en temps pour connecter avec les bonnes personnes. Mais il faut savoir aussi se protéger quand c'est le temps. Mais pour moi, ça évoque vraiment vraiment le courage.
Comment on fait pour t'écrire, te contacter?
Sur Instagram et sur ma page Facebook. Ça peut être par les messageries, mais encore mieux, il y a mon adresse de courriel, lunicuisine@outlook.com, qui est indiqué clairement sur ces deux plateformes-là. Donc, pour toute demande et tout ça, c'est préférable. Toujours, tu le sais, hein, quand on reçoit des DM pour des demandes spécifiques.
Mané, ça se perd.
Malheureusement, ça se perd parce que c'est pas pour avoir l'air prétentieux, je reçois tellement de messages. Pas ça, c'est vraiment, on reçoit beaucoup de messages, on peut être beaucoup sollicité. Fait que quand c'est des demandes, des fois, ça peut malheureusement passer dans le beurre.
Merci beaucoup, Caroline, pour cette magnifique entrevue. J'ai l'impression qu'on a parlé de 30 000 affaires.
C'est fou, hein? Oui. On était supposé parler juste de tofu. Tu vois, finalement, on a parlé de la femme. Puis de...
Oui, c'est exactement pourquoi je ça. Fais ce podcast-là.
Oui,
c'est pour avoir des bonnes discussions.
Ouais.
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.